Son esprit comme ses nerfs commencent à se relâcher. Il n'est plus qu'un petit vieillard sans abri perdu dans l'univers qui s'agrippe à sa main comme seule compagnie. Puis, lors d'une journée ou une nuit particulièrement déprimante, alors que ses pensées ne pourraient être plus lugubres, il entend une musique venir vers lui de l'obscurité de l'espace ou du temps. Cette musique est d'une telle douceur qu'il en conclut que ce doit être une hallucination de son esprit dément. C'est alors que, scrutant le vide de ses yeux myopes, il perçoit des lumières scintillantes dans les profondeurs obscures qui semblent vaciller en rythme avec la musique. Planté à la barre, les épaules voûtées, Ulysse dirige son vaisseau vers la source de la musique et sent revivre son esprit fatigué. La mélodie le frôle comme une douce brise printanière. Il se souvient de ces brises venant de la mer Égée, tandis que les nuances de cette musique l'entraînent comme une marée vers la source de lumière. Il est captivé. Il a l'impression d'entendre la musique des sphères. Les lumières rappellent une oasis cosmique, avec des arbres vivants dont les pulsations lumineuses sont les fruits. Plus il s'approche, plus qu'il entend et doux son oreille. Il croit s'approcher du paradis. Il croit entendre les anges chanter. Il avance dans la clarté et se retrouve totalement enveloppé de musique. Ce n'est qu'alors, horrifié de voir leur sourire éclairé par les lumières stroboscopiques et les contours clignotants de leurs seins nus, qu'Ulysse comprend qu'il a été dupé par les banalités. Elles semblent être partout, devant, derrière, de chaque côté de son navire. Leurs lèvres sensuelles s'entrouvent pour chanter et laisser échapper des notes. Leurs bras ravissants, ondoyant comme des fouloirs de soie, tremblent du désir de le serrer contre leurs seins nus. « Oh, toi, l'errant solitaire, susurre-t-elle, cesse ton errance. » Il avait été plus rusé que les sirènes en demandant à ses hommes de l'attacher au mât. Lui seul, parmi son équipage, les a entendus et a survécu pour en parler. Il n'y a personne pour l'aider et il n'a plus sa présence d'esprit pour l'assister. S'il doit survivre et continuer son voyage, ce sera grâce à sa seule volonté. Mais cette volonté est mise à rude épreuve par les banalités, les créatures qui sont pour moitié des beautés et pour moitié du néant. Mais si séduisante en apparence qu'il ne saurait dire quelle moitié est laquelle. Et la douceur de leur voix est une telle torture qu'elle ferait honte au chant des sirènes. « Oh, toi, le croyant sans abri, lui chante-t-elle, trouve ton foyer, leur chant lui perce le cœur, comme seul celui des banalités peut le faire. Son vieux cœur est pour lui comme une ombre dont il se débarrasserait bien ici et maintenant, mais il sait que c'est un piège. Son esprit reflue, désirant désespérément s'échapper avant qu'Ulysse ne succombe, et ce dernier tourne sauvagement le gouvernail, cherchant à partir. Quelle que soit la direction qu'il choisit, les banalités nubiles le suivent, la beauté rayonnante de leurs yeux l'aveugle, et la douceur insinuante de leur chant sape sa détermination. « Je dois trouver Dieu !» crie-t-il à plein poumon, mais il perçoit le doute dans sa voix, comme dans la voix de quelqu'un qui ne serait plus certain de ce qu'il dit. Les gracieuses banalités perçoivent cette incertitude et en font un nouveau chant. « Dieu est mort, lui chante-t-elle. Il n'y a plus de Dieu dans l'univers. Il n'y a que l'homme et il n'y a pas d'homme comme le divin Ulysse. » Elle chante, savourant la sifflante de son nom, l'embrassant avec ce son sur tout son corps. Leurs yeux projettent des images de sa silhouette jadis jeune dans toute sa gloire. Et la superpose à son corps vieilli. Elles font en sorte qu'il paraisse et se sente à nouveau désirable, comme un roi guerrier qui pourrait satisfaire de nombreuses femmes et engendrer de nombreux enfants. Elles chantent son nom comme si elles désiraient avidement son sexe. Dans le reflet de leurs yeux, il se voit accouplé avec toutes, l'une après l'autre. Il voit ses fils naître. Il se voit parmi eux adoré et aimé de tous. « Non !» crie-t-il désespéré comme quelqu'un qui est tourmenté par une tentation irrésistible à laquelle il doit malgré tout trouver un moyen de résister. « Ce n'est pas de nouveaux fils dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir pourquoi je n'ai pas aimé celui que j'ai eu. Pourquoi n'ai-je donc pas aimé mon unique enfant ? J'ai besoin de savoir pourquoi je suis né et pourquoi j'ai vécu comme j'ai vécu. « Pour rien !» répondent en cœur les ravissantes banalités. Leur chant est comme un chant d'amour, comme un cantique. Comme une berceuse. Elles chantent dans une harmonie à trois voix, et leur piété est si douce que ce pour rien paraît à la fois juste et vrai. Comme si c'était uniquement dans le néant que se trouvait un nirvana, où l'attendaient toutes les réponses aux questions qu'il se pose. Non, crie-t-il, de sa voix de vieillard. Mille fois non, L'homme n'a pas été fait pour rien, pas même moi. Si la résistance était une nécessité provisoire, tout irait bien. Mais ce n'est pas le cas. L'opiniâtre tentation des banalités exige une résistance permanente. Et il sent qu'il est en train de succomber. Elles l'affaiblissent de leur voix, lui disent non seulement qu'il est idiot de ne pas se laisser aller, mais lui rappellent aussi dans leur chant qu'il n'y a personne de surcroît pour admirer sa fermeté. Aucun témoin d'aucune sorte ne pourra transmettre la légende de ce combat. Aucun Homère pour faire une épopée de ses exploits. Tout ça pour rien, lui chante-t-elle. Personne n'en saura jamais rien. Dans le présent, toujours présent de mon esprit vivant, il y a toujours un jeu dont je suis conscient et il suffit que je le sache, leur dit-il. La réfutation n'est pas exactement imparable, il le sait. Et il voit qu'elles ne sont pas perturbées. Elles semblent amusées. Toute la raison et toute la logique sont du côté des banalités dans cette discussion. Mais Ulysse est un vieillard. Et les vieillards se sentent parfois malmenés par la raison et la logique. Et ils deviennent alors déraisonnables, par pure animosité, comme de jeunes enfants. Son violent accès de colère qui suit n'est pas digne du combat de haut niveau qu'ils sont en train d'avoir. Mais il en a cure. Il hurle, il crie. Il tape des pieds, il fait de grands gestes des bras. Il n'en peut plus, il est trop vieux pour ça. Il veut rentrer à la maison. Je suis qui je suis et ça suffit comme ça, leur hurle-t-il. Il continue à hurler jusqu'à ce que son visage tourne au violet. Il ne discutera plus avec elle. Il n'y a plus rien à discuter. Il était qui il était et ça suffisait comme ça. Les jambes chancelantes, tremblant de tout son corps, Ulysse leur lance des obscénités et oriente son navire en ne prêtant aucune attention à la direction qu'il prend. Du moment qu'il s'éloigne d'ici, ce qui finit par arriver. Mais il est si en colère, cela dit, que même quand le repère des banalités est loin derrière lui, il continue à leur lancer ses insultes et à les traiter de tous les noms. Peu à peu, malgré lui, il se calme et reprend sa quête de Dieu. Mais avec le retour du calme, revient également la solitude que les banalités lui avaient fait un moment oublier. Il finit par les regretter. Comme les voyageurs regrettent souvent les obstacles qu'ils rencontrent lors de leur périple. Il a vu sa dernière étoile il y a quelque temps déjà. Il n'y a plus aucune étoile maintenant, ni de comète lointaine, aucun corps céleste d'aucune sorte. Dans le continuum espace-temps qu'il traverse à la recherche de Dieu, il n'y a plus rien à voir ou à entendre. Il n'y a plus que le vide, sans aucun moyen de savoir si le vide dans lequel il est sans fin ou pas. Ce vide s'étend sans cesse. Aucune borne en vue, rien en vue. Sa seule consolation, c'est que ce n'est pas le néant. C'est un vide, certes, mais le vide lui-même, c'est déjà quelque chose. Et comme sa foi le lui dicte, il est obligé de continuer dans ce vide, vers une autre entité indéfinissable. Dieu.